Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsque le 25 mars 1858, la jeune demoiselle en prière répond enfin à la question de Sainte Bernadette Soubirous, lui demandant depuis le 18 février d'avoir la grâce de bien vouloir révéler son nom, voilà que la dame en lumière, les yeux levés au ciel, déclara « Que soyera Immaculada Conception » et moi je suis l'Immaculée Conception, une déclaration qui fait suite aussitôt à la demande la plus répétée du message de Lourdes, que soit bâtie en ce lieu une chapelle. La Bienheureuse Vierge Marie, en révélant ainsi son nom, ne fait pas ce qu'a fait l'Église quelques années auparavant, elle ne proclame pas le dogme de sa conception immaculée. Son message va beaucoup plus loin que ce à quoi l'a réduit le dogme. Le dogme du 8 décembre 1854, proclamé sous le pontificat du bienheureux pape Pie IX, ne se cantonne qu'aux premiers instants de la conception de Notre-Dame. C'est là, dans le ventre de Sainte-Anne, sa mère, qu'elle fut préservée du péché originel, de cette tache, macula en latin, qui fit d'elle l'Immaculée, celle qui est sans la tache du péché, pour mettre au monde celui qui allait venir nous en sauver, notre Seigneur Jésus le Christ. Si la Bienheureuse Vierge Marie s'inscrit dans cette proclamation solennelle, en un siècle, le 19e, que nous pouvons appeler le siècle de l'Immaculée, avec ses très nombreuses apparitions de Notre-Dame, à Lourdes, à la rue du Bac et en d'autres lieux de notre chère France, voilà que la Vierge, ce 25 mars, décantonne le mystère de sa conception immaculée aux premiers instants de sa conception et nous renvoie à sa vocation maternelle à notre endroit. Au jour de l'Annonciation, l'archange Gabriel a révélé à Notre-Dame sa vocation, concevoir, il s'agit de l'Immaculée Conception, concevoir et enfanter notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair. Le sang qu'il va verser pour nos péchés est un sang qu'il a reçu de la Bienheureuse Vierge Marie, sa mère. Si la Bienheureuse Vierge Marie conçoit et enfante notre Seigneur Jésus le Christ, elle est en cela la porte du salut, elle a également une autre mission. Une mission qui nous concerne chacun, à la suite de notre Seigneur Jésus le Christ, elle est pleine de grâce. Et cette grâce, elle souhaite nous la communiquer en bonne mère. Elle doit chacun nous concevoir et nous enfanter, non pas dans l'ordre de la chair, ce mystère appartient à notre propre mère. Elle doit nous concevoir et nous enfanter dans l'ordre de la grâce. C'est ce qu'elle fit avec Sainte Bernadette depuis le 11 février 1858 jusqu'à ce 16 avril de la même année où Bernadette conclura « Jamais, je ne l'ai vue plus belle que ce jour-là ». Non pas que Notre-Dame ait été plus belle, mais l'âme de Bernadette façonnée, apparition après apparition, qui sont autant de rencontres entre Notre-Dame et Sainte Bernadette, des partages qui unissent ces deux cœurs, voilà que l'âme de Bernadette, plus elle voit Notre-Dame, plus elle entre dans la grandeur du mystère de Dieu et plus elle la trouve belle. Ce que Notre-Dame a réalisé en Sainte Bernadette, elle le fit tout autant avec un de ses fils de prédilection, Saint Maximilien Kolb, dont nous faisons mémoire en ce jour. Maximilien est né dans une famille polonaise, une famille chrétienne, son père et sa mère appartenant chacun au tiers-ordre franciscain. Maximilien était un enfant des plus agités qui laissait devant une telle pagaille un grand désarroi chez son père et chez sa mère qui lui demanda un jour « Mais que vas-tu donc devenir ?» Et cette question peut être dite sous le coup de l'agacement d'une mère à l'endroit de son fils, entre dans la tête et le cœur de Saint Maximilien. Une question pour laquelle il n'avait pas de réponse. Et parce que cette famille est chrétienne, voilà que le jeune Maximilien, dans l'église de sa paroisse, va poser cette question à la bienheureuse Vierge Marie, à Notre-Dame de Częstochowa. Qu'est-ce que je vais donc faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est alors que la bienheureuse Vierge apparaît à ce jeune enfant. Pour toute réponse, elle lui présente deux couronnes. Une couronne rouge, une couronne blanche. Et la Vierge de faire choisir le jeune enfant. Et comme tout enfant à qui on proposerait deux choses, il choisit les deux couronnes. Et la Vierge de lui saisir et la couronne rouge sang du martyr qui attend Maximilien et cette couronne blanche de la vie parfaite qui va faire de lui, selon la déclaration de saint Paul, un être saint et immaculé. Voilà le mystère de la vie de saint Maximilien Kolb qui en est à son commencement. Ressentant en son âme le désir d'être à Notre-Dame et à s'offrir au Christ dans le mystère du sacerdoce, voilà qu'il décide d'entreprendre des études religieuses, des études théologiques dans lesquelles il va exceller. Il va rencontrer deux jeunes frères franciscains et entrera alors au couvent des franciscains, devenant lui-même un fils de saint François d'Assise. Saint Maximilien vit la période de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale qui l'emportera. Et en cette période, le monde devient de moins en moins chrétien. Sa chère Pologne vacille entre la Russie communiste et les nazis de l'autre bord. En apôtre infatigable, saint Maximilien n'a de cesse de vouloir apporter au monde un peu de vérité. À l'image de cette couronne blanche qu'il a saisie de Notre-Dame, voilà qui met toute sa vie parfaite et transparente à la grâce de Dieu au service d'un monde qui ne finit pas de se détourner de Dieu. En apôtre infatigable de la Sainte Vierge, il va alors fonder au sein des franciscains les franciscains de l'Immaculée. Il va fonder une cité, un couvent en plein air, une véritable cité, la cité de l'Immaculée, comme il appellera, et qui accueillera 800 frères avec sa caserne de pompiers, ses services de restauration, de bâtiments, etc. Une ville à ciel ouvert où un couvent honore la bienheureuse Vierge Marie. Dans cette cité, il va bâtir de très nombreux systèmes d'impression pour pouvoir communiquer en toutes les langues le message d'amour de Dieu, d'amour du prochain et de la bienheureuse Vierge Marie, dans lesquels il mettra en garde contre l'athéisme des communistes et le néo-paganisme des nazis, défendant fièrement et ardemment sa chère patrie, la Pologne, en des textes dans lesquels saint Maximilien Kolb invite à l'amour et à la conversion véritable du cœur, une conversion qui passe par le règne de la bienheureuse Vierge Marie. Ces revues innombrablement traduites vont parcourir le monde. C'est le chevalier de l'Immaculée qui parvient dans les boîtes à lettres et qui apporte en cela la bonne nouvelle. Le temps est également celui de la radio. Voilà que saint Maximilien Kolb fonde une radio pour pouvoir justement répandre le culte et la dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Avec ses études, il ne cesse de démontrer, argumentaire après argumentaire, les erreurs du monde dans lesquelles il évolue et dont nous payons encore aujourd'hui, pour une large part, les conséquences. Nous n'avons qu'à demander à Saint-Maximilien Kolbe qui nous aide à avoir cette audace missionnaire en un monde de ténèbres d'y apporter clairement la vérité, à l'image de cette couronne blanche de pureté et de vérité qu'il avait reçue de Notre-Dame. Étant polonais, catholique, prêtre, patriote, dans une époque où il ne fallait être aucun des quatre, ayant accueilli et caché d'innombrables juifs en sa cité de l'Immaculée, voilà que Saint-Maximilien Kolbe se fait repérer et sera arrêté en tant que prêtre polonais catholique. Une première série d'emprisonnements dans lesquels il sera gravement battu, mais libéré mystérieusement un 8 décembre où on fête la Vierge Immaculée. Voilà qu'il sera de nouveau arrêté et cette fois conduit à Auschwitz pour travailler, si l'on peut dire, et offrir à la fin de cela le sacrifice de sa vie. Dans le camp où il réside, un prisonnier un jour réussit à s'évader. La règle était la suivante: pour un prisonnier évadé, 10 seront envoyés dans le bloc où on meurt de faim et de soif. 10 personnes sont donc choisies dans le camp de Saint-Maximilien Kolbe, y compris François, un père de famille. Un père de famille qui est pris de désarroi devant la nouvelle de sa mort prochaine, car il laisse son épouse et son enfant, eux aussi, dans ce camp de la mort. Et voilà le courage et l'audace de Saint-Maximilien Kolbe, que d'avancer d'un pas en ce contexte et de proposer sa vie en lieu et place de celle de ce père de famille. Et contre toute attente, voilà que la commandanture accepte, et bien que ce prêtre polonais catholique prenne la place de ce père de famille. Enfermé dans ce bunker de la mort, voilà que pendant 3 semaines, Saint-Maximilien Kolbe va s'efforcer et bien de garder bon moral parmi ses compagnons de misère. Il va s'efforcer pour les catholiques de les confesser. On va entendre chanter de très nombreux chants, des chants catholiques, des psaumes chantés et récités pour les juifs avec lesquels il va offrir sa vie. Il va user de son ministère jusqu'au dernier instant et sera le dernier vivant dans cette prison où ses frères et compagnons seront morts de faim et de soif. Et c'est alors que l'on décide de lui faire la piqûre fatale, car malgré la désespérance de ce camp, on n'a pas réussi à atteindre l'âme de l'apôtre de la Vierge Immaculée. C'est ainsi que le 10 août 1941, Maximilien va offrir le sacrifice de sa vie à la suite du Christ et son corps sera brûlé le lendemain, le 15 août, alors que nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. Lorsque le pape Jean-Paul II canonisa Saint-Maximilien Kolbe, c'était en présence de ce père et de cette famille qui avaient été sauvés par l'intervention de Saint-Maximilien Kolbe. Et si son corps a été brûlé dans les camps de la mort, l'on doit à un des coiffeurs de la communauté d'avoir conservé du vivant de Saint-Maximilien quelques poils de sa barbe, quelques cheveux que nous pouvons vénérer, notamment à Lourdes, au couvent des franciscains de l'Immaculée. Alors que demain nous contemplerons la bienheureuse Vierge Marie élevée à la gloire du ciel dans son corps et dans son âme, il est heureux que nous fassions mémoire aujourd'hui du soldat de l'Immaculée que fut Saint-Maximilien Kolbe, sur les ondes, par la presse écrite, en toute occasion de porter le témoignage haut de l'amour bienveillant de Notre-Dame, de cet amour de Dieu qu'il a saisi et un amour qu'il a su manifester à l'endroit du prochain. À l'endroit du prochain, de par sa couronne blanche, en témoignant de la pureté de sa vie, de la justesse de sa doctrine en un monde de ténèbres, mais aussi en se saisissant de la couronne rouge, celle du martyr, qui l'identifia davantage à notre Seigneur Jésus le Christ, qui a offert sa vie par amour pour nous sur le bois de la croix. Comme Maximilien Kolb prend la place de ce père de famille, notre Seigneur Jésus le Christ prend notre place de pécheur en offrant sa vie sur le bois de la croix. L'admirable échange que nous goûtons dans la liturgie eucharistique est celle-là, celle de ce Dieu qui n'a pas eu peur de descendre ici-bas, au milieu de nos misères et de nos crèches intérieures, pour venir nous sauver. Alors que nous contemplons de quel amour nous sommes aimés, nous demandons à Notre-Dame, ainsi qu'à Saint Maximilien Kolb, de nous donner l'audace, en ce monde de ténèbres, d'apporter la claire lumière de la vie chrétienne, de la prière, de l'espérance et de l'amour de Dieu. Et nous lui demandons aussi de pouvoir être rusé en ce monde pour pouvoir, à travers les ondes, à travers les écrits, porter haut le témoignage de la foi. Puisse-t-il intercéder pour nous en cette heure et puisse la Vierge Immaculée nous concevoir et nous enfanter dans l'ordre de la grâce, comme elle a su si bien le faire avec sainte Bernadette et saint Maximilien Marie Kolb, le chevalier de l'Immaculée, ainsi soit-il.